Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Plaisir de vous entendre. Votre journal de la culture, c'est maintenant, journal qui débute avec le plan de soutien pour le monde culturel parisien annoncé hier par la mairie de Paris.
Un plan de 15 millions d'euros et une aide à projet pour le mois d'août de la culture. Ce sera un événement organisé en association avec des collectivités du Grand Paris et le festival OFF d'Avignon. Toutes les annonces ont été annoncées par l'adjoint à la culture Christophe Girard hier. Un plan destiné aux associations culturelles, théâtres, festivals, musées, afin d'éviter tout ralentissement. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a proposé ce plan lors du Conseil de Paris. Il a été voté à l'unanimité. Alors concrètement, dans les grandes lignes, comment cela va se passer? 12 millions d'euros pour les acteurs culturels qui se trouvent en difficulté, 500 000 euros pour le Centre National de la Musique, 700 000 euros pour le spectacle vivant, donc cela regroupe théâtre, art de la rue, cirque, 50 000 euros pour la SACD, c'est-à-dire la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Concernant le cinéma, l'enveloppe est de 1 450 000 euros, notamment pour les salles indépendantes, et la création de courts-métrages, et puis plus de loyers pour les associations et les ateliers d'artistes, ainsi que de redevances pour une période de 6 mois.
Et puis après les librairies, les maisons d'édition sont également très impactées par la crise sanitaire.
Un sondage a été réalisé représentant 250 maisons d'édition. La moitié d'entre elles parle d'une baisse du chiffre d'affaires de 20% à 40% par rapport à 2019. Un peu plus d'un tiers anticipe une baisse de 60% de leurs revenus en mai. 18% des maisons d'édition sondées ont annulé ou reporté des nouveautés prévues en 2020. Pour le syndicat national de l'édition, certaines d'entre elles pourraient fermer définitivement. Alors une aide exceptionnelle du Centre national du livre a été mise en place, notamment pour les maisons d'édition indépendantes, mais peu l'ont demandé. La plupart d'entre elles estiment ces mesures d'urgence trop insuffisantes. Alors oui, les librairies sont désormais ouvertes, mais les maisons d'édition sont tout de même inquiètes du redémarrage.
Et ça n'a rien de drôle, les festivals d'humour, eux aussi, ont besoin d'aide.
Et pour cela, ils demandent un plan national de sauvetage. La Fédération des festivals d'humour, FFH, a publié une tribune pour justement mettre en garde sur la situation. Elle regroupe une cinquantaine de rendez-vous en France. Pour ces festivals, il va être très compliqué de survivre avec les différentes mesures évoquées, comme les salles remplies à 50%. Financièrement, ça ne passera pas. Certains ne peuvent pas tenir comme ça jusqu'en septembre. Alors tous demandent un soutien pour l'année 2021, une année de transition. Car pour eux, je cite, une année blanche sans accompagnement deviendra une année noire. Les signataires de cette tribune soulèvent aussi un autre point. Selon eux, le genre humoristique est souvent déconsidéré par les pouvoirs culturels. Pour certains, il est parfois traité avec mépris.
Pas par nous, pas dans cette émission. Et justement, on sera tout à l'heure avec un humoriste, Christophe Alévèque. Après le cinéma drive-in, c'est au tour des concerts.
Oui Philippe, un concert depuis votre voiture, c'est désormais possible et envisageable surtout. Et ça commence avec le groupe Boulevard des Verts.
Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent.
Et oui, Boulevard des Verts va remonter sur scène le 5 juin à Albi, face à des spectateurs qui seront cassés dans leur voiture, garés devant la scène. 150 véhicules sont autorisés, elles seront disposées sur un rang sur deux. Donc c'est le premier concert déconfiné en France, des mesures sanitaires seront mises en place, obligation de porter un masque lors des contrôles des billets, les spectateurs seront guidés jusqu'à leur stationnement. Alors le moteur sera éteint, la... En live, ce sera grâce à l'autoradio. Ben oui, il faut éteindre son moteur.
Non mais t'imagines, 150 bagnoles avec le moteur allumé, heureusement qu'il est éteint. Hélène, le festival Rock en Seine, annulé cette année suite à la crise sanitaire. En revanche, les organisateurs du dit festival réfléchissent à une autre formule.
Pour septembre prochain, et toujours au Parc de Saint-Cloud, le président de Rock en Seine, Emmanuel Hogg, travaille sur une jauge de 4000 à 5000 personnes. Rock en Seine est en plein air, donc beaucoup de choses peuvent être imaginées. Il souhaite que le public retrouve les artistes. Il réfléchit également avec les autres festivals de musique qui n'ont pas eu lieu cette année pour organiser un festival des festivals avec donc tout style de musique.
Et alors là, attention, c'est générationnel. On termine avec un groupe culte des années 90.
Un
cette chanson, années 90. J'adore cette chanson, Philippe Bordel.
Ça m'étonne tellement pas, c'est votre génération, ça.
Mais totalement, vous êtes venu en 90, donc voilà. C'est quelque chose là-dessus.
On va dire le groupe.
Texas, bah oui, comme c'est ça surtout, hein.
Je l'ai hélas reconnu, c'est Texas.
Robbie Williams, ouais. Évidemment. Les membres du groupe vont se réunir pour un grand concert caritatif virtuel et confiné le 29 mai prochain. Concert unique sur la chaîne YouTube Compare The Meerkate. Les fonds seront destinés à une association de musicothérapie et une société organisatrice de concerts. Robbie Williams avait quitté le groupe Texas en 1995 pour entamer donc sa carrière solo, avant de les rejoindre en 2010 pour un album et une tournée.
Merci beaucoup Hélène Manarino. À demain, dans un instant, on va recevoir, je l'ai dit, l'humoriste Christophe Alévèque. Il vient d'enregistrer une nouvelle revue de presse, il a fait ça hier, dans une salle totalement vide. Il est totalement barré, on en parle dans un instant. Mais d'abord...
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Christophe Alévèque.
Bonjour.
Vous êtes comédien, humoriste, auteur. Vous êtes plus qu'un humoriste. Vous êtes également éditorialiste avec vos fameuses revues de presse. Alors habituellement, ça se passe au Théâtre du Rond-Point à Paris. Là aussi, sauf que vous avez enregistré hier dans une salle vide. Il faut être complètement dingue. Dans quel but ? C'était quoi votre idée ?
C'était d'abord pour c'était très égoïste au départ, c'était pour me faire du bien, c'était vraiment pour me vider, parce que cette période m'a mis extrêmement en colère, donc j'avais besoin de lâcher.
Ouais.
Et puis la deuxième raison, c'est que on vit dans un monde absurde, donc je suis allé j'ai poussé l'absurdité jusqu'au bout, et c'est un moyen aussi de faire coucou on est là. Parce que nous la famille du théâtre, on se sent un peu abandonné.
On a bien compris, justement, Hélène Manarino en parlait, même les festivals d'humour ont des problèmes en ce moment. C'est un spectacle hors norme qu'on peut voir à partir d'aujourd'hui sur YouTube, parce que non seulement vous avez spectacle dans une salle vide, mais vous êtes filmé. On va entendre un extrait, ça démarre comme ça.
N'importe quoi, c'est ridicule. Qui est-ce qui a eu cette idée à la con ? Ah, c'est moi. Oh la vache, c'est bizarre. Alors, bonsoir. Ben non. Bonsoir personne. Alors, donc, bon, nous sommes le 19 mai 2020. Voilà, donc c'est la seule certitude qu'on ait pour l'instant. Et un virus nous a attaqués. Voilà, je subis, j'attends, j'espère, j'obéis. Voilà, on va passer notre temps à ça. Bon, mais d'un autre côté, on a entendu tellement de conneries pendant cette période que maintenant, j'ai décidé que c'était mon tour. Voilà, raconter des conneries, c'est mon métier de chômeur.
Le titre du spectacle, je ne l'ai pas dit, 19 mars, 19 mai, le trou noir. Avant qu'on parle du contenu, question de forme, quel effet ça fait au comique que vous êtes, comique de métier, de ne susciter et de fait aucun rire ?
Ah, je me suis vraiment jeté dans le vide. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est une expérience que je ne referai plus non. Jamais. Mais je n'ai jamais eu aussi peur. Heureusement, il y avait Jean-Michel Ribes qui était dans un coin dans la salle, et je lui avais dit si jamais tu vois que c'est une catastrophe, ouais, tu m'arrêtes. Parce que c'est vraiment, mais c'est ce qui était très bizarre. J'avais la sensation, en fermant les yeux de temps en temps, d'entendre le public. C'est,
ouais.
Mais c'est ce silence. Quand je suis rentré, ça m'a pris. Il y avait beaucoup d'émotions. C'était parce que entre la théorie et la pratique, hein, comme dirait le gouvernement, il y a un monde.
Alors maintenant, le fond. Où et surtout comment avez-vous vécu le confinement? Vous avez pris des notes. Qu'est-ce qui a généré tout ça? Qu'est-ce qui vous a frappé pendant le confinement?
Alors j'étais d'abord en Bourgogne. Ouais. Moi je suis de là-bas. Hein. En vrai, moi ma nationalité c'est bourguignon. Hein. Donc à la maison de campagne avec le petit. Je l'ai vécu. Bon nous on n'est pas à plaindre. C'est une sorte de paradis. Mais la colère est montée au fur et à mesure.
Alors qu'est-ce qui a généré cette
à prendre des notes.
Qu'est-ce qui a généré
cette colère. Moi ce qui m'a marqué le plus,
allez-y,
c'est que on s'est arrêté de penser.
Ah bon?
Quand je dis on, hein, j'en fais partie. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a eu le cerveau dans le formol. Aucune remise en question, aucune réflexion, rien du tout. On est confiné, bien mon colonel, et basta.
Et les annonces officielles?
C'est-à-dire que...
Pardonnez-moi, vous les avez vécu comment, les annonces officielles? Par exemple, la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, qui annonçait qu'il n'y avait aucun risque pour les Français, les médecins spécialistes qui parlaient de grippette, la polémique au sujet des masques.
Mais ça, moi, je les comprends. J'y croyais pas non plus, moi, du tout, à ce virus. Et ce qui est normal, ça fait 20 ans qu'on nous vend des pandémies. Lointaines ou qui n'existent pas, fantasmées. Voilà. Et la grande référence qu'on a, nous, c'est la grippe H1N1, la bachelite,
ouais.
qui a été un gag national. Donc, ça fait 20 ans qu'on crie au loup, et que le loup n'arrive pas. Eh ben, le jour où il arrive, personne n'y croit.
Ouais.
Voilà. Et les responsables non plus. Nous, on a eu, notre cerveau a été formaté. On a eu un réflexe de Pavlov, ouais, par rapport aux pandémies. Dès qu'on disait pandémie, nous, on faisait hi-hi-hi. Voilà.
Voilà. La
bachelite. On y croyait pas.
Parce que c'était Roselyne Bachelot.
C'est pour ça qu'on s'est retrouvé sans masque, qu'on s'est retrouvé sans rien.
Ouais. Non, mais Roselyne Bachelot avait fait commander 1 milliard de masques qui ont été détruits quand même. Ça vous a pas échappé?
On ne sait toujours pas. Je pense qu'ils ont perdu les clés, moi, ou l'adresse de l'entrepôt.
Vous avez eu le temps de suivre la politique parce que je sais que c'est une de vos passions. La bataille de Paris qui s'annonce, Anne Hidalgo, Rachida Dati, Agnès Buzyn, Cédric Villani et même Benjamin Griveaux, où ça vous est complètement sorti de votre tête et de votre univers?
Mais de toute façon, je ne sais pas si tu l'as remarqué, le temps s'est arrêté, ouais. La planète s'est arrêtée de tourner, ouais. Il n'y a plus eu d'actualité. On était H24 en boucle sur le virus. Voilà, et c'est l'anxiété, la peur entretenue, on était en boucle là-dessus. Plus rien n'existait, les autres problèmes qu'on avait avant, pas. D'ailleurs, les vrais malades, les malades courants, banals, hein, ouais, se sont mis en grève.
C'est vrai, ils n'allaient plus aux urgences. C'est vrai, on est obligé de faire des campagnes maintenant pour dire...
Ils n'allaient plus chez le médecin.
Exactement. Et il y a une campagne gouvernementale pour dire aux gens, allez voir le médecin si vous êtes malade. Je reviens à votre spectacle, Christophe Alévèque, 19 mars, 19 mai, Le Trou Noir. On peut le voir sur YouTube. Est-ce qu'on va le voir sur une chaîne de télé?
Normalement, c'est diffusé sur France 3, je crois, le 29 mai.
D'accord.
À minuit.
À minuit.
Voilà, parce qu'il ne faut pas exagérer. Oui.
Et maintenant, vous êtes dans quel état?
On se transforme en citrouille, normalement.
Parce que vous parlez de votre anxiété, vous avez retrouvé de l'énergie pour travailler, ou là, vous êtes en Bourgogne et vous attendez que votre cave soit totalement vide?
Qu'est-ce que vous voulez? On est comme tout le monde, on attend. Mm-hmm. On attend. Mais ça, pendant ce temps, j'en ai profité pour finir un roman.
Ouais.
Et puis pour me lancer dans l'écriture, je pense, du prochain spectacle.
Finir le roman, pardonnez-moi, Christophe, donc, ça a deux sens. Christophe, finir un roman à lire ou finir un roman à écrire?
Finir un roman à écrire, hein. Pardon.
Il va parler de quoi?
Ouh là, d'un sujet totalement, c'est un vrai roman, hein, je pars d'une situation extrêmement dramatique pour arriver à une renaissance, voilà, c'est une sorte de conte pour adultes.
Oh là là, merci beaucoup Christophe Alévèque, Je crains le pire, 19 mars, 19 mai, Le Trou Noir, nouveau spectacle tourné hier dans une salle vide, on voit les colères de Christophe Alévèque sur YouTube, merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Culture Média.
Merci à vous, portez-vous bien.
Merci Christophe. Culture Média qui continue dans un instant. On va retrouver notre première indispensable du jour avec Angèle Châtelier. Elle va revenir sur la carrière du bluesman Lucky Peterson. A tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Première indispensable du jour avec Angèle Châtelier. Bonjour Angèle.
Bonjour Philippe.
Si vous êtes là, c'est qu'on va parler musique, oui, et vous allez revenir sur la carrière d'un géant du blues, un géant qui nous a quittés cette semaine, encore un.
Mais oui, ces dernières semaines, elles n'ont pas été les plus radieuses pour le secteur de la musique. Et si en plus, on doit compter nos morts, Little Richard, Manu Dibango, le batteur Tony Allen, Florian Schneider de Kraftwerk et maintenant Lucky Peterson. Give all you ladies the blues. Let's have Peterson était guitariste, organiste et chanteur, un grand du jazz et de la soul, décédé à 55 ans dimanche. Son premier album, il l'a sorti alors qu'il n'avait que 5 ans. Vous imaginez, 5 ans. Enfin, disons que c'est quand même plus facile de s'y mettre tôt quand on a un père qui tient un club de blues. C'était le Governor's Inn à Buffalo, là où Lucky Peterson est né. 400 places et les plus grands sont venus y faire des bœufs comme Muddy Water. Mais c'est Willie Dixon, un autre grand nom du blues, qui a repéré Lucky Peterson. Alors enfant, il s'est dit, tiens, faisons un album avec ce petit. C'était en 1969.
Ce petit
c'est
qui
dingue,
chante,
c'est
hein,
génial.
Vraiment.
Et le premier instrument de prédilection de Lucky Peterson, alors, c'est l'orgue. École la journée, club de blues le soir, aux côtés de son père, avec qui il partage la scène et quelques albums. Mais il finit par se détacher de lui, en 1989 surtout, avec Lucky Strike, son premier album en solo. Et c'est l'un de ses premiers succès. Suivi Philippe, des dizaines d'albums ensuite.
Le batteur, c'était pas sa première journée à la batterie. Hein. Beaucoup de concerts aussi, j'imagine.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que beaucoup retiennent de Lucky Peterson, sa chaleur sur scène, sa générosité. C'était un immense habitué du New Morning, une salle du 10e arrondissement de Paris, très réputée dans le milieu du jazz. Pour vous resituer, c'est très drôle, j'aime beaucoup cette salle parce que devant, il y a un écriteau où est inscrite la phrase « Les rois du jazz à l'intérieur, les rois du silence à l'extérieur, merci pour nos voisins. »
Et alors, on imagine, comme c'est un bluesman, qu'il a collaboré avec beaucoup, beaucoup d'artistes, Lucky Peterson.
Oui, il a fait un duo avec le bassiste Bootsy Collins.
Non, c'est mon idole, Bootsy Collins.
C'est vrai, ouais. Bah voilà, vous irez écouter. Il a aussi travaillé sur l'album Gravity at Last de la chanteuse Ayo, aussi pour ne citer que, hein, c'est quand même immense toutes ses collaborations. D'ailleurs, l'un de ses albums les plus plébiscités, c'est un hommage qu'il a fait à de grands noms de la soul, l'album Organ Soul Session, sorti en 2009. C'est des reprises de grands standards comme Stolen Moments d'Oliver Nelson. Amy Winehouse.
Il est à l'orgue. Il est mort du coronavirus, Lucky Peterson.
A priori non, d'une attaque vasculaire. Il s'était confiné comme tout le monde. Il faisait très attention et il avait aussi publié il y a quelques semaines le coronavirus non. blues. Coronavirus blues. Please y'all don't go out there and get the coronavirus blues. C'est donc un grand nom du blues qui s'éteint. Au revoir, Lucky Peterson.
Je ris parce qu'il n'avait pas fermé sa fenêtre. Au revoir, Angèle Châtelier. Merci beaucoup. Et on va l'entendre, j'imagine.
Oui, écoutons l'une de ses plus belles chansons. Voici Lucky Peterson avec Singing This Song For You sur Europe 1. I've been so many places in my life, life and time.
Culture Média, Philippe Vandel. Suite et fin des indispensables. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour.
Ce matin, Louise, vous nous conseillez un documentaire sur Netflix consacré à une ex-première dame américaine.
Alors, ce que vous entendez, c'est l'entrée de Michelle Obama, telle une rockstar dans une salle. enfin non, dans un stade de 20 000 personnes, toutes venues pour la promotion de son livre de mémoire, ouais, Becoming, Devenir. Il y a plus d'un an et demi, hein, elle avait fait cette tournée d'une trentaine de dates et la réalisatrice Nadia Algren l'a suivie pour Netflix. Alors Michelle Obama raconte ce qu'il y a dans son livre, donc sa vie, son enfance dans les quartiers pauvres de Chicago, ses brillantes études, sa rencontre avec un certain Barack, avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Hein. Et Michelle Obama, elle flirte souvent avec le One Woman Show par moment. Exemple, quand elle raconte la dernière journée à la Maison Blanche, la veille de leur départ avec ses deux filles. Les amis de Sacha et Malia, qui étaient devenus des habitués de la Maison Blanche, sont venus me voir ce soir-là et m'ont dit « On veut rester dormir ». Et moi je suis là « Attendez, quoi ? Vous voulez dormir là ?»
Oui, cet endroit tellement nous manquer. On veut un dernier petit déjeuner.
Parce qu'il faut savoir qu'on peut manger ce qu'on veut à la Maison Blanche. Et elle ne se gênait pas.
Je crois que je vais prendre le burger au poulet frit et des gaufres.
Et le matin, il fallait qu'on parte. Alors je les ai pressés de se préparer. Debout, les Trump arrivent. Vous devez vous lever et sortir.
C'est génial.
Vous voyez ?
C'est génial cette phrase. Ouais. Debout, les Trump arrivent.
Voilà, et donc filmer cette tournée promotionnelle, c'est le prétexte pour raconter la vie de Michelle Obama. Il y a d'ailleurs beaucoup d'archives et d'interviews. On la suit aussi dans ses rencontres avec des élèves des quartiers défavorisés. Et puis il y a des moments de coulisses, évidemment. On y perçoit l'omniprésence des services secrets. Hein. C'est assez marquant. Et on y découvre une Michelle Obama à la cool qui écoute Drake en attendant de monter sur scène. Voilà, elle monte le son, son bras en l'air bouge au rythme de la musique. Alors cette scène, ça rend le documentaire à la fois génial et à la fois problématique.
Problématique, pourquoi ?
Bah, en fait, c'est un plan de communication parfait. Je vous mets au défi de le regarder, de ne pas trouver Michelle absolument fabuleuse, charismatique, solaire. Je ne dis pas qu'elle n'est pas réellement, mais ça manque tellement d'aspérité, on ne lui devine aucun défaut. Tout ce qui est filmé est contrôlé, on n'est vraiment pas dans son intimité, aucun instant volé. Et elle est habituée à ce contrôle permanent, hein. Pendant 8 ans, elle a eu de l'entraînement.
Et alors, est-ce que ça vaut le coup quand même de regarder ce doc ?
Ouais, totalement. Il faut juste avoir ça en tête. C'est pas du tout un travail journalistique. D'ailleurs, le doc est produit par le couple Obama, ça veut tout dire.
Ah bah oui.
Bon, ça reste quand même fascinant à regarder. Elle est une icône indéniable, une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes femmes. On le voit lors des rencontres filmées. Et elle se confie quand même sur de nombreux aspects de sa vie, donc on en apprend beaucoup. Et puis, ça fait du bien de revoir ce couple, l'incarnation du couple, du cool, mais surtout véritable machine de communication. D'ailleurs, Barack Obama fait une seule apparition, mais remarquez, il débarque sur scène lors d'un des shows de sa femme.
Vous savez, c'est comme quand Jay-Z arrive sur la scène de Beyoncé.
Young B-N-R-O-C. Oh mon Dieu, arrête.
Mais si, vous savez, c'est dans Crazy in Love. C'est pareil. C'est juste un aparté pour sublimer le concert. Bon, je corrigerai quand même 2-3 choses.
Tu n'as pas à faire ça ici, c'est mon livre.
Absolument, tout à fait.
Mon livre, ma version des faits.
Oui, et on doit rentrer ensemble en plus.
Et on dirait quand même un peu le mot pecho. On dirait que ça a été écrit par des auteurs tellement c'est bien.
Mais tout est écrit, c'est ça. Et donc pour voir Barack Obama chanter du Beyoncé, il faut aller regarder sur Netflix le documentaire Becoming.
Merci beaucoup Louise Bernard. Culture Média, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain à 9h30. Nous serons avec le producteur Pierre-Antoine Capton. On va parler du Grand Échiquier qu'il produit évidemment. Et puis Michel-Édouard Leclerc. On va pas parler de supermarché, on va parler de Culturissimo, festival à suivre en ligne jusqu'au 12 juin.